c'est à travers les sens qu'on accueille la réalité. Et donc, le fait d'éduquer et d'ouvrir l'intelligence, par exemple, c'est beaucoup par les sens qu'on ouvre l'intelligence. Hein, rien ne rentre dans l'intelligence sans passer par les sens. Les sens nous construisent, on va voir un aspect un peu biologique, neurophysiologique, ensuite l'aspect psychologique et l'aspect spirituel. Même dans notre relation à Dieu, d'une certaine manière, ça passe par les sens. C'est beau de voir, par exemple, que la liturgie fait appel à nos cinq sens. Et c'est la logique de l'incarnation. Jésus, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, eh bien, du Verbe de Dieu, nous vous annonçons, c'est Saint Jean qui dit ça, dans son prologue. C'est vraiment... Et c'est toujours important de ne pas se passer de cette étape sensorielle. Sous prétexte d'avoir une attitude plus spirituelle ou une attitude ou tout de suite d'aller dans la vie de la vie mystique, on peut dire. Mais même les grands mystiques, ce sont des personnes incarnées. C'est des personnes qui rentrent dans cette dimension d'incarnation, dans cette dimension, au fond, d'humilité. Passer par les sens, c'est passer par l'humilité. Et de dire que notre construction humaine, elle passe aussi par ces cinq sens. Alors c'est intéressant de voir au fond, mais c'est peu vécu, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais le fait d'éduquer les sens. Moi, je ne crois pas qu'on m'ait vraiment éduqué les... Alors, je les ai développés, etc. Peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte, mais dans mon éducation, je ne vois pas quelque chose qui se réfère ou à un moment particulier où on éduque les cinq sens. Alors, à travers le vin, évidemment, il y a toute la question du goût, de l'odorat, la vue... et le goût, c'est un certain toucher, parce que c'est le toucher du palais. Mais il peut y avoir l'éducation à l'art, l'éducation à la musique. Tout ça, ça éveille l'intelligence, ça permet à l'intelligence de saisir le réel. Au fond, c'est ça, c'est par nos sens qu'on accueille le réel. Mais aussi, les grandes pathologies aussi viennent de difficultés sensorielles. Ou de blocage, on va en voir un certain nombre en psychologie, qui fait que je me coupe du réel, pour X raisons, parce que je me protège, parce que le réel a été à une époque de ma vie trop douloureux, et donc on a des moyens de protection, des murailles intérieures qu'on peut se former, bon, on est un peu tous pareils de ce côté-là, chacun réagit de façon un peu différente aux épreuves, mais... Et encore, nous ici, on a quand même été, je pense, assez protégés, assez privilégiés. Voilà, alors, chaque sens, juste pour rappel, chaque sens répond à un besoin fondamental de la personne humaine. Le sens du goût répond au besoin de variété, qui s'oppose à la monotonie. Le sens de l'odorat au besoin de normes. Le sens de l'ouïe au besoin d'apprendre, le sens de la vue au besoin d'identité, et le sens du toucher que l'on va voir aujourd'hui au besoin de sécurité. Donc chaque sens construit une partie, et à chaque fois, bon, on ne va pas revoir bien sûr chaque sens, on en a vu déjà, c'est le quatrième qu'on voit, il nous en manque un, mais aussi à chacun correspond d'une certaine manière... un lien, bien sûr, avec la construction de la personne humaine, mais aussi un lien avec Dieu. Par exemple, la vue, la dernière fois, on avait regardé les regards de Jésus dans l'Évangile. Et aujourd'hui, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'Évangile du jeune homme riche. Hein, Jésus le regarda et l'aima. Donc. Mais aussi, on peut voir le toucher dans l'Évangile. On verra peut-être quelques passages, si on a le temps. Le toucher, c'est... Jésus qui aussi s'approche, touche, ou alors on le touche. Il faut revenir, et ça on est victime beaucoup du rigorisme moral du 19e, qui a jeté sur le corps un discrédit, que ce soit dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, c'était plus difficile, avec le puritanisme victorien, qui a jeté sur le corps un discrédit. Et je crois que l'Église, c'est seulement avec Jean-Paul II que l'Église a retrouvé les mots pour redire la beauté du corps humain, qu'on est à l'image de Dieu aussi par notre corps. Hommes et femmes, il les créa. Et il vit que cela était bon. Dans leur sexualité, dans leur différence, ils sont image de Dieu. Donc je crois que Jean-Paul II, si on prend le, ce qui est assez complexe, hein, mais le temps et ça a été quand même beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu à l'occasion, ou de travailler, où on sent que ça quelque chose qui s'approfondit, cette théologie du corps, une vision chrétienne du corps. Alors on va voir simplement le sens du toucher et le besoin de sécurité. Donc on voit que chez l'enfant, parce qu'on va voir beaucoup chez l'enfant, et le bébé en particulier, c'est par les lèvres et par le toucher qu'il reçoit les seules informations au tout début de sa vie. Hein, pendant un certain temps, ce sera les lèvres qui seront pour le bébé le seul moyen d'appréciation du réel. Quand on dit toucher, on dit non seulement toucher par les mains, mais en fait, là où il y a de la peau, eh bien, on touche. Donc tout notre corps est appelé au toucher, qui a un sens très fondamental. Hein, très fondamental. Hein, c'est pourquoi, donc, dès qu'il le peut, il porte à ses lèvres les objets pour les définir, les reconnaître, et continue à le faire, même après avoir acquis d'autres moyens de perception. Le sens du toucher, c'est ce qui donne le sens du réel. C'est ce qui est le plus proche de la matière. Ce qui fait aussi que c'est celui qu'on a peut-être le plus de mal à gérer parce que, avec notre intelligence, et parce que c'est tellement enraciné dans la matière. Mais c'est le sens du réel. Et de voir que le Seigneur lui-même a voulu se laisser toucher, physiquement. Et on peut dire, de façon analogique, dans l'Eucharistie, le Seigneur aussi, sous l'espèce du pain et du vin, se laisse toucher, regarder. À la naissance, les sens du bébé sont si peu développés qu'ils lui fournissent très peu d'informations de valeur. Le bébé dépend entièrement de son sens du toucher, des lèvres et du contact corporel en général, des extrémités de ses doigts et de toute la main ensuite. Je vous passe un peu l'aspect neurophysiologique, c'est-à-dire, mais c'est intéressant de voir comment, dans la physiologie, c'est construit dans notre corps, hein, à travers les récepteurs sensoriels, à travers les stimuli donc qui arrivent au cerveau. Hein, et c'est surtout le thalamus, hein, qui est sollicité par le sens du toucher. C'est-à-dire que le thalamus, c'est le centre en nous qui est lié aux fonctions vitales. C'est par le sens, on ne peut pas vivre sans le sens du toucher. Et ça, il y a une expérience assez terrible qui a été faite par Frédéric II, qui a dit, ben voilà, on va mettre dans une pièce 10 enfants et on va leur donner tout, mais on ne va jamais les toucher. On va les nourrir, on va les laver, bon, laver, il faut les toucher, mais le minimum, et puis, mais ces enfants sont morts.
On ne va jamais leur parler.
Leur parler. C'est ça. Jamais faire appel à leur sens. Et il a mis d'autres enfants dans une situation beaucoup plus difficile au plan matériel, mais qui recevaient de l'amour, de la tendresse, et ils ont vécu. On peut pas vivre, on peut vivre aveugle, on peut vivre sourd, on peut le devenir. Hein, mais on ne peut pas, on peut perdre le sens de l'odorat ou le sens du goût, mais on ne peut pas perdre, en tout cas sur tout le corps, il peut y avoir des zones d'insensibilité suite à des traumatismes, mais on ne peut pas perdre sur tout le corps, parce que là on deviendrait pratiquement fou. Si on n'a plus le sens du toucher, c'est tellement fondamental, tellement enraciné dans ce que nous sommes, dans la définition de ce que nous sommes, dans la sécurité, dans l'existence. On voit des personnes souvent assez tactiles, bon, en dehors des cultures. Hein. Plus vous allez dans le sud, plus c'est tactile quand même. C'est intéressant de voir ça. Plus vous allez dans le nord, vers la Picardie, par exemple, hein, où est notre communauté, bon, on voit les gens, pas grande manifestation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection, mais c'est d'une autre manière. Mais
Bon, chaque culture aussi a besoin d'être évangélisée, mais... Pardon ? Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est... les Esquimaux s'embrassent sur la bouche, c'est ça tu dis, non ? Ah, je pensais qu'ils se frottaient le museau, non ? C'était... Bon, bref, toujours est-il que c'est peut-être la seule chose qui est découverte à moins 40. Hein. Juste pour vous dire, en 1915, chez les enfants admis dans les asiles aux États-Unis, on trouvait un taux de mortalité entre 31% et 75% avant qu'ils atteignent 2 ans. En Allemagne, on savait que dans les asiles pour orphelins ou enfants abandonnés, 7 enfants sur 10 mouraient dès la première année. Quoique les conditions de vie se soient améliorées, le taux de mortalité était lié à un manque de contact corporel. Un manque de contact corporel, tout simplement qu'on ne s'occupe pas d'eux. C'est-à-dire que le goût de vivre vient du sens du toucher. Et l'enfant a le goût de vivre parce que quelqu'un le touche. Il ne suffit pas de lui donner le biberon, il ne suffit pas de le laver. Il faut le toucher. Il a besoin d'un contact. Sinon, il y a des enfants qui dépriment, qui dépérissent, mais qui ne veulent plus vivre. Et qui se laissent aller, qui meurent. Donc... C'est très fort. Hein, le... Et grande partie des blessures quand même dans l'humanité est liée au sens du toucher. Hein, c'est... Hein, que ce soit la violence, évidemment, les abus sexuels, ou les manques de tendresse, bon, etc. Le sens du toucher, donc première partie, c'est... Donc, première partie, donc la partie un peu neurophysiologique, bon, je vous la passe, mais c'est lié au thalamus, c'est lié à... il y a donc des récepteurs sur toute la peau. Hein, qui permettent d'avoir la certitude d'un monde extérieur. Ensuite, deuxièmement, l'aspect psychologique, et je vais mettre en plus là-dessus. Hein, le besoin, le sens du toucher engendre un besoin de certitude vis-à-vis de ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est 2 points, l'existence, l'amour et la sexualité. Donc, au fond, le sens du toucher, c'est ce qui nous permettra d'avoir une certitude que l'on vit, une certitude que l'on est aimé, une certitude d'être d'un tel sexe ou d'un tel autre. Une psychologue américaine fait remarquer que lors de la phase de découverte, l'investissement affectif reste faible, c'est-à-dire que quand la mère découvre l'enfant, etc., c'est petit à petit qu'il y a un sens du toucher de plus en plus grand, hein, comme lorsqu'on fait sa cour, on n'est jamais sûr de la façon dont on sera perçu. Cela est vrai au stade des tentatives d'approche, avant que l'heure de la confiance réciproque, dans la main, hein, soit donnée. Dans le toucher maternel aussi, le stade d'effleurement précède celui de la pleine confiance. Cette confiance semble éveiller une réponse personnelle et expressive du bébé. Quelquefois, il émet un petit cri. Plus souvent, il se blottit d'une façon particulière et à 3 mois, il exprime un plaisir infini. Cette réponse doit venir du bébé lui-même et personne d'autre pour qu'il acquière dans cette relation le sens des rapports humains et de leur réciprocité. C'est ce qui est très français. Le sens des rapports humains, au fond, le sens de la confiance. C'est très très fort. Hein. C'est vraiment le qui est très profondément enraciné. La période postpartum, donc après l'accouchement, est sans doute la période la plus importante dans les premiers contacts mère-enfant. Exactement comme chez les animaux. La plupart des mères, mais pas toutes, ressentent immédiatement le besoin de toucher la peau de leur bébé dès qu'il est né. Elles pensent qu'il est important d'être totalement consciente et non sous anesthésie au moment de l'accouchement et elles veulent immédiatement donner le sein. Et on voit, par exemple, il y a tout un mouvement qui milite beaucoup pour que l'allaitement naturel dure le plus longtemps possible. Justement pour que cet enfant puisse grandir, à la fois surtout dans les premières années de la vie, les premières heures de la vie, hein, les premiers jours de la vie. Pour que, d'une certaine manière, parce qu'il a été touché, parce qu'il se sent aimé, exister, parce qu'il se sent reconnu dans sa sexualité, mais l'enfant peut devenir autonome. Il peut devenir autonome parce qu'il a reçu ça. Le sens du toucher, c'est ce qui nous permet aussi la perception de l'espace. Nous acquérons la certitude de l'existence de nous-mêmes et d'un monde extérieur à nous par la relation aux objets qui nous entourent. Cette relation est spatiale. Nous plaçons les objets dans l'espace par rapport à notre corps et nous découvrons les objets par rapport à notre corps, ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est à droite, ce qui est à gauche, est d'abord perçu par rapport à notre corps. C'est tout un passage de Merleau-Ponty, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui a travaillé sur cette question du toucher. Le sens du toucher est donc celui par lequel nous avons de façon directe la perception de notre corps et la perception que nous vivons, la perception de l'existence de quelque chose d'autre que nous, hein, c'est la première perception de l'altérité, il existe une personne autre que moi, il existe un monde autre que moi, et puis la perception de la distance de l'objet par rapport à nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre sans le tout, parce qu'on serait dans une telle insécurité que pratiquement l'angoisse serait telle qu'on ne pourrait pas continuer à vivre. Donc la première chose, c'est que le toucher donc, est la sécurité dans l'existence. On peut vous développer cet aspect-là. Hein, il y a une psychologue américaine, Ashley Montagu, qui a écrit « La peau et le toucher », si vous voulez travailler un peu cette question, édition du Seuil en 1979. La peau, il y a peut-être d'autres choses qui ont été faites depuis. Hein, il y a des thérapies aussi qui passent par les sens. Ça, c'est aussi assez intéressant. Et elle dit la chose suivante. Je peux affirmer en toute certitude, je crois, que l'animal qu'on a caressé, elle parle de l'expérience animale, l'animal qu'on a mal caressé ou insuffisamment est un être insatisfait au niveau émotionnel. Jusqu'à présent, on ne considérait pas la satisfaction des besoins tactiles comme fondamentale. Les besoins fondamentaux étant ceux qu'il fallait satisfaire pour que l'organisme survive. L'alimentation, la boisson, etc. Or, en fait, le besoin de sensation tactile est fondamental puisqu'il doit être satisfait pour que l'organisme survive, même dans l'expérience animale. L'organisme mourrait si l'on cessait totalement de stimuler sa peau. L'expérience nous prouve abondamment que pour tout organisme muni d'une peau, il existe des périodes clés pendant lesquelles il faut stimuler la peau pour que l'organisme se développe normalement. C'est l'expérience animale et dans l'expérience humaine, on en a parlé un peu, hein, l'enfant donc met tout à sa bouche, parce que la bouche aussi c'est un sens du toucher, et il est perturbé dans son, s'il est perturbé dans son développement tactile, c'est-à-dire qu'il ne reçoive pas assez de stimuli à ce niveau-là, ou reçoit des stimuli négatifs, hein, violence, abus de toutes sortes, hein, eh bien, il développe adulte des attitudes physiques ou psychologiques traumatisantes. C'est-à-dire des pathologies. Il devient, par exemple, la schizophrénie. La schizophrénie, une des pistes de réflexion, c'est la schizophrénie, c'est cette séparation en deux. Ou alors, tout ce qui est un enfant autiste, par exemple, donc une séparation du réel. Alors, est-ce que c'est toujours, faut pas généraliser, mais une des pistes peut être aussi le sens du toucher. Il y a des pathologies qui viennent d'un manque de stimulation de la peau. La peau est peut-être un moyen de se détendre, de se relaxer. Et le corps, justement, l'enfant qui n'a pas été assez stimulé, qui n'a pas reçu assez de caresses, de câlins, d'affection, mais corporelle, eh bien, le corps n'est pas perçu comme une source de joie. Il n'est pas non plus source de réconfort, une fois adulte. Et lorsque la personne est plus en sécurité avec son corps, hein, le manque d'acceptation de notre propre corps, par exemple, notre propre sexualité, ou du corps de l'autre, ou de l'affection de l'autre, lorsqu'on n'est plus en sécurité avec son corps, eh bien, on peut devenir gauche, raide, sans chaleur. Il peut y avoir comme ça des développements
Ensuite, le toucher, c'est la certitude d'être aimé. On dit la certitude d'exister, de l'existant, la certitude d'être aimé. La satisfaction du besoin de sécurité atteint une harmonieuse plénitude par la construction chez l'enfant d'une double capacité, celle de l'attachement qui le rend capable de détachement. Ça, c'est intéressant, ça. L'attachement qui le rend capable de détachement. C'est-à-dire, parce qu'il a reçu assez de stimuli pour, au niveau de sa peau, assez de marques d'affection, il peut devenir adulte, il peut être autonome. Mais on voit des personnes qui ont manqué de tendresse, et on voit bien, bon, peut-être chez les adolescents, mais parfois l'adolescence se prolonge un peu, c'est le fait d'être scotché. Vous voyez, il y a comme du scotch. Alors, si on ne s'est pas pris dans les bras 10 fois par jour, ben, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de sécurité. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être rassuré. C'est vraiment ça, on voit ça, c'est des personnes assez tactiles, etc. Bon, parce qu'elles ont besoin d'être rassurées qu'elles sont vraiment aimées et aimables. Parce qu'à travers le sens de du toucher, c'est dire aussi, je suis aimable. L'enfant normalement sécurisé, c'est celui qui, dans son cerveau et dans son affectivité, sait qu'il est aimé, même si la personne ou les personnes qu'il aime ne sont pas toujours présentes. Ça, c'est intéressant. C'est parce que j'ai assez reçu d'affection, de tendresse, etc., qu'il peut y avoir une absence de l'autre. Je pense, par exemple, pendant un temps de fiançailles, il n'y a pas forcément besoin d'une présence 24 heures sur 24, même comme mari et femme. Parce que j'ai à la fois... ensuite, on écoutera les différents témoignages, c'est important parce qu'il y a un attachement pour un détachement. Vous voyez, c'est un attachement, il y a un besoin, mais en même temps, il y a un besoin où j'ai besoin d'exister sans l'autre. Mais en même temps, j'ai cette sécurité d'être aimé. Parce que j'ai reçu assez, surtout bébé, enfant, et puis au long de ma vie, assez de sécurité, de preuve de cet amour. Du coup, je peux devenir autonome, je peux devenir adulte, au fond. Mais ça s'enracine en grande partie dans le sens du toucher. Et c'est beau de voir, par exemple, Jésus, qui, avec Marie-Madeleine, qui a expérimenté de façon assez ample le sens du toucher. Ça, c'était une blague. Bon. Non, voilà. Et Marie-Madeleine, qui voit Jésus ressuscité... Marie-Madeleine qui voit Jésus ressuscité et qui, évidemment, affective comme elle est, touche le Seigneur, je veux dire, commence à s'accrocher à lui, etc. Et Jésus dit, eh bien, ne me touche pas, je dois aller vers le Père. C'est-à-dire que, apprend aussi, Jésus enseigne, au fond, à vivre sans son humanité, sans cette sécurité que donne l'humanité du Verbe. Au niveau spirituel, on voit bien, par rapport avec Thomas, « Mets tes mains dans mon côté, des doigts dans mes plaies, etc. » Mais sois croyant, d'abord. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu n'aies plus besoin de ça. Il faut que tu passes à un autre registre. Mais pourquoi ? Parce que, de certaines manières, dans la vie de foi, on a eu aussi des expériences. Et c'est parfois, on est un peu de... On ne sait plus trop où on en est, où on a des expériences très fortes à certains moments de notre vie, ou une grande dévotion, une grande ferveur. Puis, petit à petit, on sent que ça s'estompe, etc. Puis... Il y a cette parole très belle de Sainte Thérèse d'Avila. Qu'est-ce qu'on aime ? C'est les cadeaux de Dieu ou le Dieu des cadeaux ? Est-ce qu'on a besoin toujours de preuves d'amour ? C'est un peu comme l'ado ou la personne qui n'est pas en confiance avec celui ou celle qu'il aime. Ou est-ce qu'au fond, j'arrive aussi à vivre avec une certaine absence de sentiment, de ressenti ? Qui est un signe de maturité dans la foi. Donc on voit Jésus qui entraîne aussi plus loin, qui ne veut pas d'une certaine manière, il conduit au Père. Et c'est vrai que c'est par la tendresse utilise le corps pour signifier la proximité des sentiments. C'est-à-dire, on ne peut pas, que ce soit un sentiment positif ou négatif, soit la colère ou par la violence, etc., mais... Parce que le sens du toucher transmet par le corps de façon directe, sans interprétation, le message émotionnel. C'est par le corps, c'est quelque chose de... une chose, c'est écouter, mais si quelqu'un vous touche, on réagit immédiatement. Alors que si quelqu'un vous parle, si vous parlez avec quelqu'un d'autre, ben, on cause toujours. Mais si, c'est parce que c'est très profondément inscrit, c'est un contact direct avec notre personne. C'est pour ça, hein, le langage, Jean-Paul D disait de façon très belle, le langage du corps, c'est le langage le plus fort. C'est certainement le langage, parce que c'est celui qui atteint le plus ce que l'on est, qui atteint plus profondément. Et là, c'était au Parc des Princes, mais bon, je me rends compte que j'ai vieilli. Vous n'étiez peut-être pas né, 1981. Non, pas tous, non. Bon, d'accord. Donc, voilà, gros coup de vieux, gros coup de solitude. Et donc, du coup, c'est... Il disait que c'est le langage le plus fort. Et justement, dans l'éducation à la tendresse entre hommes et femmes, avant d'arriver au langage le plus fort, il y a d'autres formes d'intimité à découvrir. Parce que aussi la question dans le discernement, juste un petit mot, mais ça peut parasiter le discernement que d'aller justement par exemple à la relation sexuelle, parce que tout de suite, parce que justement c'est tellement puissant, c'est tellement fort, ça dit tellement de choses, ben, du coup on zappe d'autres lieux d'intimité, d'autres lieux de connivence, de complicité qui pourrait y avoir. Et entre autres pour le discernement, ça n'aide pas. C'est tellement prégnant et le sens du toucher. Hein. En même temps, il y a tout un apprentissage aussi à se laisser prendre par l'autre, se laisser toucher par l'autre, se laisser caresser, se laisser recevoir la tendresse de l'autre. Ce qui n'est pas forcément si facile hein, pour certaines personnes. C'est un peu une épreuve aussi, c'est un peu parce que dans leur famille on ne démontre pas, parce que on touche pas trop, on n'exprime pas trop les sentiments, parce que bon, des tas de choses. Et donc bien sûr, on est bousculé intérieurement de voir face à quelqu'un qui vous aime, qui est bon, ben ça travaille quoi, hein, qui vraiment. Ben oui, on est quelque part dérangé, ça. Bon. Le toucher, donc, troisièmement, donc, sens de l'existence, sens d'être aimé, sécurité d'être aimé, et une sécurité dans l'identité sexuelle. L'identité sexuelle n'est pas la stimulation érotique, c'est la certitude suivie d'une acceptation heureuse de son propre sexe. L'enfant reçoit très tôt de la part de sa mère, d'abord, dans la manière dont il le caresse, dont elle le caresse, le linge, le nettoie, le sentiment d'être accepté dans son propre sexe et d'être aimé, comme il est garçon ou fille. Plus tard, c'est par les caresses et l'affection paternelle que la petite fille ou le petit garçon se sentiront valorisés dans leur propre sexualité. Cependant, la contrepartie existe. Les caresses et l'affectivité maternelle ou paternelle peuvent être aussi la cause d'un rejet du sexe, du malaise à être garçon ou fille, voire d'une fixation pathologique sur un parent au détriment d'une heureuse complémentarité nécessaire au développement. Donc, c'est assez intéressant de voir ça, de voir que l'acceptation aussi de ma sexualité fait que j'ai été reconnu dans mon corps tout entier et donc accueilli comme garçon ou fille. C'est aussi très fort, hein. C'est très prégnant hein, dans notre humanité. Maintenant, la troisième partie, on peut dire la première partie, donc c'est neurophysiologique, la deuxième partie, les aspects psychologiques, et la troisième partie, c'est la génération des affects, c'est-à-dire qu'est-ce que ça engendre en nous.
Je voudrais juste revenir sur le point d'avant.
Oui.
Que, par exemple, un des deux parents a un gène, enfin, une sorte de gène par rapport à son enfin, par exemple, le père a une gêne par rapport à sa fille ou la mère par rapport à son garçon, ça peut du coup induire des troubles.
Oui, si on. Une
sexualité.
Alors, justement, c'est un peu lié à ça. C'est si on voit qu'on se sent pas accepté dans sa propre sexualité, non, eh bien, ça peut évidemment. Ensuite, on n'est pas heureux dans son corps, quoi, quelque part. Hein.
Apporter un dégoût et
apporter un. Oui, oui. Oui, parce qu'on recherche toujours une sécurité dans ma propre sexualité, donc je vais vers la personne du même sexe. Parce que c'est aussi ce besoin de sécurité. Parce que accueillir l'autre différent, la première différence, c'est quand même homme-femme entre les personnes humaines, c'est celle qui saute le plus aux yeux. La première différence, c'est, eh bien, c'est, ça veut dire que chacun aussi, est, accueillir la différence, l'altérité, c'est que l'autre est autre que moi. Et dans sa sexualité, ça veut dire aussi une certaine sécurité dans sa propre sexualité, dans un certain bonheur. Et donc d'avoir ressenti le regard de ses parents, hein, un regard positif. Donc la génération, notre troisième partie, la génération des affects. Le sens du toucher lié dans l'affectivité à un besoin de certitude. Donc c'est ce qu'on a vu. Alors, il peut y avoir un équilibre. Alors en quoi consiste cet équilibre? D'abord, la satisfaction équilibrée de ce besoin engendre chez l'adulte des traits particuliers qui peuvent se résumer. Elle a une confiance dans la vie, éprouve un certain bonheur de vivre. Cette personne a un amour ordonné de son propre corps et en accepte la responsabilité. Ce qui se traduit par une façon équilibrée de se nourrir, par une vigueur physique et aussi par un souci mesuré d'hygiène. Elle est capable d'éprouver et d'exprimer l'amour et l'affection sans rigidité comme sans mollesse, avec chaleur et tendresse, sans verser dans la sensiblerie le romantisme, tout en répondant aux exigences de la véritable amitié. Elle accepte sa sexualité comme source d'épanouissement, ne ressent ni frustration, ni besoin de domination, ni fuite. Et devient graduellement équilibré. Donc voilà, donc c'est cet équilibre qui peut naître par le toucher, et, mais aussi ce qu'on peut voir, ben, c'est qu'on est aussi des êtres blessés, il peut y avoir une insatisfaction du besoin. Alors, l'insatisfaction se fait de deux façons, soit par défaut, soit par excès. Soit on a manqué, soit on a trop reçu, de façon excessive. Alors le déséquilibre ne porte pas sur le sens du toucher, c'est pas le sens du toucher qui est déséquilibré, hein, c'est pas ça, mais sur le besoin de sécurité qu'il génère. Donc les pathologies, c'est pas des pathologies médicales, le sens du toucher, des pathologies intérieures. Hein. Il se manifeste dans les différentes insécurités ou d'excessive sécurité, au contraire, un besoin de sécurité absolument excessif, hein, comme par exemple des personnes qui sont maniaques de l'hygiène, absolument maniaques, je veux dire, 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour, à se laver les mains, à tout, absolument tout nettoyer, je veux dire, ça devient de l'obsession. Il y a une hygiène à avoir aussi, qui est le respect de son corps. C'est important aussi l'hygiène, parce que c'est aussi, ça dit aussi, l'accueil de mon propre corps, de donner une certaine tendresse à son propre corps, hein, de façon ordonnée. Mais la satisfaction par défaut, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu assez de stimuli, engendre trois choses. Premièrement, la peur de vivre. La méfiance envers l'amour. Et le refus de sa sexualité ou de la sexualité de l'autre. Ça peut engendrer ces trois aspects. Peur de vivre, alors ça peut se manifester par plusieurs choses. Crainte de la nourriture, l'anorexie. Crainte de la fatigue au travail, la psychasthénie. Crainte de la maladie, l'hypochondrie. Hein? La méfiance envers l'amour, parce que c'est très fort, ça. Hein? Et on voit tout de suite le lien dans la vie spirituelle. C'est un sentiment latent de culpabilité, une tendance à la captation, et ça on voit bien, encore une fois, des personnes qui veulent mettre la main sur l'autre. Parce qu'au fond, elles ne sont pas sécurisées, donc... On veut dominer, on veut une emprise sur l'autre, même au plan physique, hein, parfois ça se voit, hein, et une propension à la jalousie. Hein, à la jalousie. Hier, on n'en a pas parlé dans la joie, en tout cas, j'y ai repensé après, comme il est important de se réjouir de la joie de l'autre. C'est précisément ça, la joie. Et dans la jalousie, eh bien, on voit bien que il y a au fond cette peur d'être abandonné. L'autre a un bien, donc je suis moins. Dans la jalousie, il y a cette peur d'être relégué. Et dans le refus de sa sexualité, on peut dire un peu, pour approfondir un peu cette question-là, c'est avoir peur de sa sexualité, ne pas l'accepter, c'est refuser son corps en tant que lieu de la sexualité. L'enfant qui n'a pas été assez touché, câliné par ses parents, peu ou mal embrassé, manque de tendresse, d'affection. Celui dont le parent de l'autosexe a eu peur de le toucher, la mère qui a peur de toucher son garçon, le père qui a peur des caresses trop affectueuses d'un petit garçon, peur de le rendre homosexuel, ou qui est trop réservé avec ses filles, cet enfant a lui-même peur de son corps. Il a peur d'être touché physiquement. Il développe une pudeur excessive, il développe une personnalité peu chaleureuse, froide, souvent rigide. Cette crainte de sa propre sexualité se développe différemment chez l'homme et chez la femme. Et il peut y avoir aussi par excès, dont on a vu par défaut, mais il peut y avoir aussi par excès, un manque de du contact avec le toucher, mais par excès, et ça peut être soit la surprotection, qui est toujours le transfert d'une anxiété maternelle ou paternelle. On surprotège l'autre, parce que d'une manière ou d'une autre, l'enfant est jugé comme fragile, que ce soit vrai ou faux. L'enfant est jugé comme fragile, donc, mais c'est la surprotection, c'est angoissant pour l'enfant. C'est angoissant parce qu'il sent que le fait d'aller bien va faire que ses parents vont aller bien. Donc, et ça, il le perçoit relativement tôt, quoi. Et puis, évidemment, par excès, l'abus sexuel. Évidemment, ça ne détaille pas trop, mais c'est fait partie de... Donc on voit bien que dans le sens du toucher, il faut rester très modeste et très... Hein ? Oui, équilibré, oui, équilibré, oui, mais c'est pas facile d'être équilibré. Si c'était si simple, ça se saurait, hein. Mais justement, très modeste aussi, parce qu'on arrive tous plus ou moins, alors bon, même s'il n'y a pas forcément une grande pathologie, mais... plus ou moins avec des... ne serait-ce que par les circonstances de la vie, je parle. Un enfant qui a dû être tout de suite hospitalisé. C'est pas forcément parce que ses parents ne l'aiment pas. Mais bon, les circonstances ont fait qu'il a dû être immédiatement coupé de sa mère et donc vivre peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ça, c'est pas sans conséquence. Mais bon, c'est de la faute de personne.
D'ailleurs, c'est pour ça que dans les couveuses, on s'est rendu compte que le bébé se développait beaucoup moins quand il était sans contact. On a permis un toucher justement par des gants stériles. Mmh. On s'est rendu compte qu'ils allaient beaucoup mieux et qu'ils sortaient beaucoup plus vite. Ils se rétablissaient par ce contact.
Ouais, ça vient de là aussi. Hein. Donc, on arrive dans notre vie avec par rapport au toucher ou à son propre corps ou au corps de l'autre, avec peut-être des blessures, avec des difficultés à rentrer dans une juste acceptation qui soit ni rigidité, ni aspect fusionnel. Alors un peu comment le remède. Le dernier point, c'est le remède. Et le remède, c'est la formation à la... Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si je coche toutes les cases? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment j'en sors? Parce qu'on peut sortir un peu déprimé... On fait comme ça la liste de toutes les pathologies et qu'on se reconnaît dans beaucoup d'entre elles. Voilà. Eh bien, le remède, c'est une formation à la miséricorde. Une formation à la miséricorde qui est un certain toucher du Seigneur. La miséricorde, c'est avoir aussi du... Miséricorde, c'est deux mots. Hein, avoir du cœur pour la misère. Avoir du cœur pour la fragilité. Et la miséricorde de Dieu était aussi un certain toucher spirituel, où on se sent aimé, on se sent pardonné, aimé, on se sent exister comme homme ou femme face au Seigneur. Ben oui, il y a un toucher spirituel, comme tu dis, une chaleur, un bien-être, un sentiment de plénitude, qui vient guérir en nous ce qui a pu être blessé. Ce qui vient guérir en nous ce qui a pu être blessé dans ce contact, dans cet aspect du toucher, de l'accueil de notre propre corps. Et c'est vrai de voir que le Seigneur lui-même nous donne dans l'Eucharistie son corps en communion. Ben, ayons foi que son corps est source de guérison. Et source de guérison pour nous-mêmes, hein, comme cette femme qui avait des pertes de sang et qui touche le manteau du Seigneur, qui en a été guéri, alors que la foule l'entourait, il demande, ben, qui m'a touché ?
J'ai senti une force.
J'ai senti une force. Elle l'a touché avec foi. Hein, femme, ta foi t'a sauvée. Eh bien, si une femme qui touche le manteau du Seigneur avec foi reçoit des grâces, à plus forte raison, quand on est en communion avec le Seigneur et qu'on le touche dans le et qu'on communie dans l'Eucharistie, mais on recevra aussi des grâces.
Et on le voit aussi dans l'exorcisme, par exemple.
Oui.
Le prêtre qui touche avec son étole. Oui. Parfois, le pouvoir que ça peut avoir.
Oui, oui.
C'est très bien dit dans l'Évangile quand, par exemple, il vient guérir les personnes
possédées
et que la force en va dans le trompeau, oui. Se jette dans la mer.
Oui.
La piscine de
Siloé. Il y a plusieurs lieux. J'ai pas eu le temps de faire tout, mais vous pouvez prendre. Mais beaucoup de miracles, Jésus, il y a un contact physique avec le Seigneur. Est-ce que je trouve très beau la salive sur les yeux. Il fait de la boue avec sa salive et la terre. Et il la met sur les yeux de l'aveugle. Il bénit les enfants. Bénir, c'était pas évidemment faire comme ça pour Jésus. Bénir, c'est mettre la main sur la tête. Hein, c'est bénir les enfants. Donc, il y avait une facilité avec son corps, une facilité. Et c'est très beau ça dans l'évangile, mais en même temps cette éducation de Marie-Madeleine, ou alors Jésus qui se laisse toucher par la femme pécheresse, qui nettoie les pieds, et le sèche avec ses cheveux, et verse un parfum c'est-à-dire qu'au fond, ce qui pour la femme à la fois le parfum et les cheveux, qui peut être source de séduction, eh bien touche le Christ et devient source de sainteté. Hein, et c'est ça, c'est le Seigneur qui redonne à la femme, non pas ce désir de posséder ou de séduire ou d'attirer, mais au contraire d'utiliser son corps dans le cadre de la sainteté, dans le cadre de l'amour, et non pas de la captation. Et non pas de l'emprise. Pardon ?
C'est
le remède, bon, il y en a certainement d'autres, mais le fait d'avoir aussi de la tendresse, évidemment, ordonnée envers soi-même.
S'aimer soi-même,
ordonnée. Oui, ça peut être au moment de la douche, ça peut être d'avoir de façon de. C'est la tendresse qu'on n'a pas reçue pour X raisons. Eh bien, c'est important aussi de se la donner, de prendre soin de soi, au niveau de l'hygiène, au niveau des choses comme ça, ça dit souvent quelque chose de l'accueil de son propre, de l'importance que l'on donne à son propre corps. Il y a beaucoup, de toute façon, tout passe par le corps. On a vu, même la vie spirituelle passe par le corps, hein, jamais sans lui. Celui qui veut faire l'ange fait la bête. Hein, donc, maintenant, il peut y avoir la formation, c'est ce qui a été retenu, la formation à la miséricorde. Pour chaque toucher, pour chaque sens, il y a un remède aussi. Mais c'est certainement cette miséricorde du Seigneur qui va vraiment donner cette certitude d'être aimé. C'est ça. C'est au niveau de la certitude le toucher. Au niveau de la certitude.